J'ai pas choisi un message en rapport avec l'écologie. J'ai plutôt choisi un message en rapport avec les dimanches de l'Avent. Vous savez que nous sommes, nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche de l'Avent. Et j'ai médité surtout sur les passages, ou plutôt l'histoire de Jésus avec ses disciples. Vous savez que Jésus avait 12 disciples, dont 3 favoris. Vous savez qui c'est? Jean, Jacques et puis Pierre. Hein? Et donc il y avait 3 disciples favoris. On pourrait même dire André. Voilà. On peut rajouter même 4e. Souvent, voilà, le Seigneur faisait pas mal de merveilles seulement avec les 3 disciples, Jean, Jacques et Pierre. Et je me suis intéressé à ce Jean, qui était le plus jeune des disciples. Il était le plus sensible. D'ailleurs, dans son évangile, il le décrit comme celui que Jésus aimait. Donc, il était vraiment quelqu'un qui était un bien-aimé du Seigneur. Et lors de la crucifixion, Jésus demande à Jean de prendre soin de sa maman, puisqu'il savait qu'il allait partir auprès de son père. Et là, il s'était inquiété pour sa maman biologique. Et c'est pour ça que nous voyons ce passage dans Jean 19, 26, où il est dit « Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voilà ton fils ». Puis il dit au disciple « Voilà ta mère ». Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Voilà, donc là on apprend que Jésus avait donné une mission à son apôtre Jean, c'est de prendre soin de sa maman biologique. C'est peut-être sans doute pour cela qu'il n'a pas forcément exercé un même ministère d'évangéliste par rapport aux autres apôtres qui ont souvent implanté, ils ont parcouru tellement de chemin pour implanter, pour construire l'Église, et même ils sont morts martyrs à cause de leur ministère. Or, Jean, lui, il avait un autre ministère que Jésus lui-même avait confié, c'est-à-dire prendre soin de sa maman biologique. Et donc, il a pris part de cette mission, d'ailleurs à 100%. Et vous savez combien d'années il s'est occupé d'elle? Bien sûr, jusqu'à sa mort. Hein? C'est pas une année, ce n'est pas 5 ans, ce n'est pas 10 ans. Probablement, on pense peut-être pendant 50, voire 60 ans. Donc c'est beaucoup, hein? Les gens étaient jeunes, donc voilà. On peut considérer que voilà, Marie a aussi vécu très longtemps. Et c'est seulement après la disparition, le décès de Marie que Jean commence à écrire, ou même peut-être avant aussi. En tout cas, il a écrit pas mal de livres, comme l'Évangile de Jean, comme l'Apocalypse, comme 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, etc. Il était devenu beaucoup plus mature. Et il a écrit vraiment quelque chose qui dépasse notre intelligence. Par exemple, il dit, en décrivant Jésus, il disait, voilà, la parole qui s'est fait chair. La parole s'est fait chair en parlant de Jésus. Vous savez comment les autres auteurs des évangiles décrivent Jésus, comme Matthieu par exemple, d'abord, Matthieu décrit, ou plutôt écrit la généalogie pour pouvoir prouver que Jésus était bien le Messie attendu depuis des années, et que les Juifs connaissaient très bien que c'est de la lignée de David, du roi David, qu'il allait naître ce Messie. Et c'est pour ça qu'il écrit toute une généalogie pour dire que voilà, Jésus vient de la lignée de David. Pour prouver en tout cas que c'est bien le Messie attendu. Marc, lui, il dit tout simplement que Jésus est le commencement de l'Évangile, la bonne nouvelle. Certes, c'est vrai. Luc, lui, Il apporte beaucoup de témoignages à propos de la naissance de Jésus. Il parle de, il parle des anges, voilà, qui apparaissent pour faire des prophéties à propos de la naissance de Jésus. Et puis nous voyons aussi beaucoup de prophètes qui ont rencontré aussi des anges, que ce soit Siméon, Anne, etc., des bergers aussi, pour parler de la véracité de l'histoire de la naissance de Jésus. Mais puis Jean, lui, nous parle la parole qui s'est fait chair. La parole qui s'est fait chair. Et il dit même que la parole qui a créé le monde entier s'est fait chair. Cette révélation, je dirais, ça dépasse complètement de notre intelligence. Bien sûr, les autres écrits, les autres évangiles ont été aussi inspirés par le Seigneur, mais là, je vois encore une profondeur sur l'identité de Jésus. L'identité de Jésus. Dans Jean, chapitre 1, verset 14, il est dit « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jean parle de la grâce, de vérité, de gloire du Fils de Dieu qui est venu sur cette terre. Oui, il décrit Jésus comme quelqu'un qui est Dieu, mais aussi qui a reçu cette grâce, qui a apporté cette grâce, qui a apporté la grâce, la vérité, et qui s'est manifesté aussi par sa gloire. Lui qui est pleinement Dieu, ben il était aussi pleinement homme. Dans chapitre 1, verset 1, on voit ceci. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » C'est très fort, dès le commencement. C'est-à-dire, depuis toujours, il y avait la parole. Et cette parole était avec Dieu. On a l'impression qu'il y a une distinction entre Dieu et la parole. Et après, il dit encore, la parole était Dieu. Si on ne comprend pas vraiment la Trinité, on ne peut pas vraiment bien comprendre. Mais ici, on voit bien que Jésus était toujours là depuis l'éternité, avec Dieu le Père. Et ce Fils de Dieu, il y a une distinction entre Dieu le Père et la parole qui représente Jésus. Bah, même s'il y a une distinction, il y a aussi l'unité entre Dieu le Père et le Fils. Jésus était cette parole qui est Dieu et qui était avec le Père déjà au commencement. Et toutes choses ont été faites par lui, par Jésus. C'est incroyable, c'est incroyable. Parce que certains théologiens du début du siècle disaient que Jésus n'avait pas existé avant sa naissance. C'était des hérésies, enfin des hérétiques qui disaient ça. Mais voilà, cette parole de Jean éclaire très bien sur l'identité de Jésus. Au verset 4, il est dit aussi qu'en elle était la vie. En cette parole, en Jésus, il y avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Voilà donc encore une autre description. Ce Jésus apporte la vie. Ce Jésus aime la vie et elle-même, lui-même, la vie, et qui est aussi la lumière des hommes. Ce Christ a apporté aux hommes cette lumière. Au verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc vous avez bien compris, le sujet d'aujourd'hui, c'est que Jésus est lumière. Jésus est lumière. Il est venu apporter cette lumière dans ce monde pour éclairer qui ? Nous, vous et moi. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont reçu cette lumière ? On peut voir cela dans Éphésiens 5. C'est Paul qui écrit dans Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit : « Réveille-toi, toi qui dors. » réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Est-ce que vous êtes en train de dormir? Là, je parle physiquement. Mais là, il est en train de parler de l'endormissement spirituel. Spirituel. De la mort spirituelle. Et pour ceux qui sont morts ou qui s'endorment spirituellement, là, on est en train de. Enfin, la Bible est en train de nous dire que Jésus est venu pour eux, pour les réveiller, pour les relever. Comment? En les éclairant avec sa lumière. Ainsi, nous tous, nous avons été réveillés un jour, ou nous avons été relevés avec la lumière de Christ. Une fois éclairés, il y a un changement de comportement qui est demandé, un changement d'état, où nous sommes plus morts, mais nous sommes devenus des vivants. D'ailleurs, dans Jean, chapitre 8, 12, il est dit que « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Oui, dans le monde, il peut y avoir tellement de choses ténébreux, mais la lumière chasse le ténèbre. Vous voyez bien que s'il n'y avait vraiment pas de lumière en ce moment, dans la nuit même, si on avait juste allumé ça, on aurait vu toute une lumière qui remplisse la salle, n'est-ce pas? Ça dépend aussi de l'intensité de la lumière. Hein. Si la lumière est vraiment forte, là, ça peut être influençable, etc. Souvent, est-ce que nous sommes influencés ou nous sommes... comment on peut dire ça? Nous influençons les gens ou nous sommes influencés par les autres? C'est une question, hein. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Réfléchissez en vous-même. Est-ce que nous sommes des gens qui influencent les autres avec la lumière, avec, rien qu'avec votre présence, là où vous êtes, là tout à coup, voilà, l'ambiance change, ou les gens découvrent en vous quelque chose de différent, ou bien vous vous noyez dans le masque, dans la masse, et que vous vous adaptez selon la circonstance. La situation du groupe, par exemple. On peut réfléchir. Ici, je redis encore, je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Lorsque nous sommes éclairés par la lumière du monde, on éclaire exactement pareillement. Est-ce que nous éclairons aussi à ceux qui nous entourent? C'est ça en fait que j'aimerais vous faire réfléchir. Parce que dans le monde, il y a tellement de corruption, de mensonges, des fake news, et le Seigneur nous appelle vraiment aussi à faire la lumière sur des choses qui sont à clarifier ou à sanctionner. À rétablir la justice, etc. Les choses innombrables de ténèbres ne devraient pas justement se trouver parmi nous, les chrétiens qui ont reçu, nous les chrétiens qui ont reçu la lumière. Je vais lire encore un autre verset, dans Éphésiens, chapitre 5, toujours, verset 11. « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Qu'est-ce que les œuvres infructueuses des ténèbres? La Bible nous décrit pas mal de péchés. Ça pourrait être l'impureté, le mensonge, l'idolâtrie, des passions infâmes, toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, de médisance. Puis là, ce matin, nous avons parlé aussi de l'Église verte, la destruction, devant la destruction de la nature à cause de l'argent, la cupidité aussi encore. Oui, ce genre de choses, ce sont des œuvres infructueuses, des ténèbres. Qu'est-ce que nous devons faire? Le Seigneur a bien dit, ne prenez point part, ne participez pas à toutes ces choses. Soyez différents. Il ne faut pas que vous soyez dans ces choses, dans ces œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les. Oui, je pense que c'est important aussi de pouvoir dire les choses, mais qu'est-ce que ça veut dire condamner exactement? Dans le verbe, en fait, ça veut dire plus exactement réprouver. Ou encore, on peut dire exposer, dévoiler, montrer ce qui est caché derrière. Oui, notre devoir est quand même de dire les choses pour changer les choses. Comme notre Église qui a aussi opté pour l'Église verte, quand nous voyons un petit peu la nature qui se détruit de plus en plus à cause de l'argent, à cause des gens de pouvoir, nous devons aussi agir, nous devons dire les choses. Mais il ne faudrait pas avoir de sentiment de supériorité par rapport aux autres, ceux qui commettent. C'est très important. Il ne faut jamais avoir de sentiment de supériorité parce qu'eux, ils font du mal et que vous ne faites pas. Ça, c'est pas bien. En fait, il arrive en effet que nous soyons prompts à condamner telle ou telle chose scandaleuse. Par exemple, la mort des 6000 personnes d'ouvriers pour, c'était quoi déjà? La construction des stades au Qatar. On pourrait même condamner. Tout cela pour nous donner aussi une bonne conscience. Or, nous devrions justement passer plus de temps à nous regarder d'abord, nous. Vous savez, souvent, nous avons tendance à dire, toi, tu as fait du tort. Mais on ne se regarde pas forcément, nous. Nous devrions aussi passer plus de temps à nous regarder pour être éclairés complètement devant le Seigneur. Cette lumière, d'abord, doit toucher nous-mêmes avant de dire quoi que ce soit pour les autres. Parce que si nous ne sommes pas capables de voir nous-mêmes, si nous disons les choses pour les autres, ce ne seront que des bruits qui disparaîtront. Hein? Il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de recul. Après, j'ai un petit peu réfléchi, un peu plus, qu'est-ce que les œuvres infructueuses qui ne portent pas de fruits? Et ça m'a rappelé un peu des personnes qui me disaient, Jean, j'ai un problème. J'ai dit, mais c'est quoi ton problème? J'aime trop le foot. Ah, ouais. Est-ce que c'est un péché? Je dis, non, c'est pas un péché. Tu peux très bien regarder le foot sans être culpabilisé. Certes, ça pourrait être infructueuse, mais on a aussi besoin d'un temps d'hobby pour passer du temps. Et puis, le foot n'est pas non plus quelque chose de mauvais. Ça rassemble les gens, ça fédère les gens, ça même brise les barrières entre les différents pays, les différentes... Et d'ailleurs, il n'y a pas que le foot, il y a d'autres sports qui font briser les barrières des pays. Par exemple, à un moment donné, la Corée du Nord et la Corée du Sud avaient formé une seule équipe pour les Jeux Olympiques. Je ne sais pas si vous étiez au courant. On n'a pas dévoilé notre drapeau coréen, coréen du Sud, coréen du Nord, mais on avait juste dessiné la terre en bleu pour dire que nous participons en tant que Coréens, pas Coréens du Sud ou Coréens du Nord. Ça a rassemblé des gens. Le sport aussi peut rassembler des gens. Il y a des bonnes choses. Et puis d'ailleurs, à travers le sport, on peut ressentir des émotions tous ensemble. Ça fait du bien, la tristesse, mais aussi le bonheur, l'unité, la paix. J'étais super content cette semaine. Vous savez pourquoi? Oui, hein? La Corée a été qualifiée. J'étais super content d'adhérer aux autres Coréens qui sont contents aussi pour ce sport. certes, c'est pas forcément fructueux, mais hein? Moi, je dis toujours à cette personne qui avait un problème avec le foot, j'ai dit, écoute, non, si tu n'es pas complètement dépendant de sport et que tu consacres tout ton temps à réfléchir, à voir, etc., etc., là, ça devient dangereux. Hein? Donc, tout ce que nous faisons pourrait être dangereux si on donne trop de priorité, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faudrait avoir sagesse et discernement dans toutes ces choses. Et donc, à réfléchir pour nos activités, à réfléchir sur nos hobbies, à réfléchir sur ce que nous faisons habituellement. Est-ce que nous sommes complètement submergés par ce que nous faisons et qui sont parfois inutiles, infructueuses, ou pas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette lumière est claire, expose ce qui est à l'intérieur, ce qui est caché. Et le Seigneur, lorsqu'une fois que ça a été dévoilé, ben, il nous demande aussi de rejeter, d'être transformé. Dieu, ainsi, quand on se laisse faire à Dieu, Dieu opère des changements. Comme le médecin qui opère des patients. On a beaucoup de médecins. Voilà, Dieu opère les plaies profondes jusqu'à la racine pour enlever les choses complètement, pour guérir la personne. On ne va pas enlever juste un petit bout pour enlever la personne, n'est-ce pas, cher docteur? Ce n'est pas en réparant à moitié. Hein? Il faut complètement enlever à la racine les mauvaises choses. Dans Proverbe 1, verset 23, il est dit « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répondrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. » Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Est-ce que nous avons les oreilles spirituelles pour écouter les réprimandes du Seigneur? Sommes-nous promptes à écouter les réprimandes du Seigneur? Voilà. Avant de changer, il faut d'abord écouter. Et ainsi, le Seigneur, notre Père, qui est notre Seigneur, le Souverain, nous parlera à travers sa parole, Jésus-Christ, et nous montrera aussi par son Saint-Esprit pour nous aider à changer, pour nous donner le vouloir et le faire pour changer. En tout cas, qu'on puisse avoir cette oreille spirituelle pour ne pas tomber dans la stagnation spirituelle. Parfois, on peut stagner. Le Seigneur nous dit non, il faut d'abord progresser. Toujours, nous devons être toujours dans ce progrès pour obtenir la maturité spirituelle. Dans 2 Timothée 3,16, vous connaissez cette parole, toute écriture est inspirée de Dieu, n'est-ce pas? Toute écriture est inspirée de Dieu, mais après il est dit aussi, utile cette écriture, cette parole de Dieu, ce Jésus qui nous a laissé cette parole, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Que nous puissions écouter davantage cette parole qui nous enrichisse, que nous puissions vraiment être à l'écoute pour que cette écriture soit utile pour être façonnée, pour être transformée. Et qu'on ne soit pas vraiment influencé par les autres. Vous savez, quand je suis souvent avec les gens qui sont pessimistes, qui sont râleurs, qui sont toujours mécontents, on pense à qui? Moi, j'ai rien dit. On a tendance à être influencé. Mais vous savez que la qualité, la caractéristique de la lumière, c'est nous qui devrions justement influencer, comme j'avais dit tout à l'heure. Il ne faut pas être influencé par tous ces gens qui apportent. Et d'ailleurs, si vraiment vous avez une vie authentique, sincère, si vous avez vraiment, vous menez une vie en tant que chrétien authentique, montrant l'exemple, un bon modèle, les gens réfléchiront deux, trois fois avant de dire des choses mauvaises ou avant de vous partager des choses qui ne conviennent pas au Seigneur, parce qu'ils vous connaissent. S'ils vous disent des choses comme ça, en vous connaissant, vous, ça veut dire que vous n'apportez pas forcément un bon témoignage. Et que vous êtes comme des autres dans le monde qui acceptent de tout. Normalement, c'est la lumière qui devrait chasser les ténèbres, pas l'inverse. Mais malheureusement, voilà, il arrive souvent de voir des gens influencés par les ténèbres. Cela se pose deux choses, soit la lumière n'est pas en vous, ou soit votre lumière n'a pas assez d'énergie pour briller suffisamment. Pour ces gens qui n'ont pas assez d'énergie pour briller suffisamment, je leur recommande, d'ailleurs, je nous recommande tous, parce que nous avons tous besoin de cette communauté chrétienne. C'est pour ça que nous avons besoin de cette communauté. C'est pour ça que nous ne pouvons pas vivre tout seul. À plusieurs, on peut s'entraider. À plusieurs, on peut intercéder. À plusieurs, on peut aider ceux qui sont faibles spirituellement. Et on peut les relever. Quand vous êtes tombé, là, un autre frère, une autre sœur peuvent vous relever et vous aider. Et c'est ainsi que nous progressons, et c'est ainsi que notre ADN même peut changer grâce à la lumière de Dieu. Nous pouvons ainsi porter même des fruits par la suite, en apportant notre témoignage dans notre lieu de travail, dans nos relations, dans le lieu où Dieu nous a placés. Voilà. Si on est lumière, il est certain que les autres doivent apercevoir donc ce changement. J'aimerais vous lire encore quelques versets dans Éphésiens chapitre 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. C'est vrai, autrefois, nous étions ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Le Seigneur vraiment nous invite à marcher comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Que vraiment, ces attributs du Seigneur puissent vraiment aussi venir en nous et pour vraiment éclairer aussi les autres. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, oui. Le Seigneur nous demande d'examiner nous-mêmes et même discerner ce qui est bien, ce qui est agréable à Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Voilà, je vais conclure. Le Seigneur s'est fait chair, quelle grâce. Jean nous a éclairé une vérité incroyable, c'est que cette parole qui a toujours existé depuis toujours, il est venu en tant que lumière pour nous éclairer. Quelle bonne nouvelle aussi. Et cette lumière ne reste pas sans effet, non, au contraire, ça nous reflète et on devient même une autre lumière qui brille autour de nous pour porter pas mal de fruits. Que nous ne puissions pas dormir comme certains, que nous ne soyons pas vraiment comme des morts spirituels, mais qu'on se relève, qu'on se tient debout. Parce que c'est vrai que... est-ce que vous avez réveillé quelqu'un? Oui? Vos enfants, peut-être? Je réveille les enfants. Et elles sont réveillées. Mais elles sont toujours dans le lit. Oui, je suis réveillé. C'est bon. voilà. Si on reste toujours dans le lit, il y a un risque de rendormir, de s'endormir. Il faut les tenir debout et aussi faire sortir du lit pour se laver, etc., etc. Pareil, on peut spirituellement se réveiller, je ne sais pas, par une prédication, par un message, par un contact, par un événement, on peut être vraiment réveillé, on peut être super content, mais juste réveillé. Et en restant tout dans son lit, confortable, douillet, mais voilà. Non, le Seigneur dit, non, quand on se réveille, il faut se tenir debout, marchant. Il faut aussi marcher. Marchant, il faut être éveillé. Et conscience en éveil, il faut être conscient. Il faut être en état de réveil et marchant soigneusement. Ainsi, voilà, nos actes ont plus de poids. Lorsqu'on se comporte comme ça, nos actes auront plus de poids que nos paroles. Voilà. Que vraiment l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu, cette lumière du Seigneur puisse nous éclairer davantage pour exposer, pour dévoiler, pour nous montrer ce qui est caché, secret. Et que s'il y a des choses à régler avec le Seigneur, qu'on puisse les régler aussi, pour devenir nous-mêmes une lumière, pour pouvoir aussi éclairer nous-mêmes, mais aussi les autres personnes, les autres qui sont autour de nous, pour pouvoir aussi porter pas mal de fruits. Voilà. Que le Seigneur vraiment nous bénisse. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur, toi qui es notre lumière, toi qui as toujours existé depuis l'éternité, et nous voulons vraiment te louer pour ce que tu as fait sur cette terre, c'est-à-dire à cause de notre péché, à cause de notre injustice, tu t'es fait homme pour le pardon de nos péchés, pour le salut de tous, et maintenant, voilà, nous avons reçu cette lumière incroyable qui nous éclaire, qui nous transforme, qui nous façonne. Et maintenant, Seigneur, oui, aide-nous vraiment à recevoir, à même regarder à l'intérieur de nous pour pouvoir aussi condamner, pour pouvoir aussi changer ce qui est ténébreux. Que nous puissions vraiment nous détacher avec les œuvres infructueuses, mais qu'on puisse se concentrer des choses qui porte des fruits, Seigneur. Merci encore pour ce que tu es, ce que tu fais, et ce que tu as été il y a plus de 2000 ans. Oui, tu es venu sur cette terre pour nous sauver, pour nous pardonner. Et Seigneur, c'est vrai que c'est un privilège. Et merci aussi de nous avoir fait grâce de te croire et aussi de nous avoir transformés. Mais merci encore aussi cette étape où tu nous accompagnes. Que vraiment, Seigneur, davantage que tu sois proche de nous et que qu'on puisse vraiment te désirer de plus en plus, Seigneur, pour avoir une relation intime avec toi. Nous te prions tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est le temps des annonces.